Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Bonsoir à tous, bienvenue dans une semaine formidable pour décrypter l'actualité sportive de la semaine. Pour m'accompagner ce soir, Gérard Salin, Jérôme Crapati et Clément Muller. Bonsoir messieurs.
Bonsoir. Bonsoir.
Au sommaire de cette émission, du cyclisme avec les championnats du monde sur route, du rugby avec le top 14 et la fin du rugby championship, et enfin de la MotoGP avec un retour sur le Grand Prix d'Indonésie. On débattra ensuite des calendriers sportifs trop chargés selon les sportifs, avec les footballeurs qui se plaignent de plus en plus et qui menacent de faire grève. Et nous terminerons comme d'habitude par les coups de cœur de nos invités. Gérard Salin, on va commencer par vous avec le cyclisme et je dirais le nouveau tour de force de Tadej Pogacar qui est devenu hier champion du monde sur route.
Oui, oui, pour la première fois.
Pour la première fois.
Et il a été vraiment impressionnant. C'est assez incroyable de voir un coureur comme ça dominer d'une telle façon. Personnellement, je pense qu'il a tenté de partir assez loin parce qu'il craignait peut-être ses adversaires comme Evenepoel, Van Der Poel, Marc Hirschi peut-être, qui auraient pu le suivre s'il était parti à 40 km. Mais là, en partant à 100 km, les gens se sont dit... Il est fou, on va le retrouver en croix devant. Et puis non, il a été jusqu'au bout, il a même accéléré sur la fin, il était formidable.
Voilà, vous l'avez dit, il est parti à 100 km, il a profité du fait qu'il avait vu Evenepoel et Van Der Poel enfermés un peu dans le peloton, il a tenté sa chance. Il reconnaît après coup, dans son interview, que c'était un peu suicidaire et que c'était stupide, ouais. Il l'a dit lui-même, il a utilisé ce mot. Mais finalement, il est allé au bout.
Oui, ben après, ça prouve qu'il était costaud, hein, qu'il pouvait... Il faut vraiment des qualités extraordinaires pour réussir comme ça. Puis quand on voit la vitesse qui montait la dernière bosse, c'est assez impressionnant, quoi. Donc, c'est un grand coureur. Puis il ose, c'est toujours un coureur qui ose. Il n'est pas là en attentiste. Il fait la course, quoi. Donc, on peut lui tirer son chapeau, quoi.
Alors, il y a un aspect tactique un petit peu dans cette course, puisque contrairement au reste de la saison, la course du championnat du monde se court par pays, donc avec les équipiers qui ne sont pas les équipiers habituels le reste de la saison. Est-ce qu'il ne s'est pas dit à un moment, bon, même si il y a quand même Roglic, par exemple, dans son équipe slovène, il faut que je me débrouille un peu tout seul aujourd'hui?
Oui, il y a ça aussi, c'est vrai, oui. On peut. Puis, je crois qu'il n'y a plus les oreillettes.
Non, il n'y a plus d'oreillettes.
C'est important, et je crois que les directeurs sportifs... se plaignent, mais la course est d'autant plus belle sans les oreillettes, parce que avec les oreillettes, les coureurs sont bloqués. Et là, il n'a pas attendu les directives, il a fait sa course et il est parti. Et puis le spectacle est d'autant plus beau.
Sur cette course, on va aussi noter, donc c'était, vous l'avez dit, le premier titre de champion du monde de Pogacar. Le Romain Bardet, premier français,
oui,
est dixième.
Romain Bardet qui arrête le vélo, voilà. Et donc c'était un brut d'honneur pour lui. Et donc il a tenu son rang pour sa dernière course. Enfin, je crois que c'est pas sa dernière course, il va se recycler dans un autre. Mais enfin, voilà, ça, en professionnel, ça sera sa dernière course, et chapeau quand même. Moi, j'ai un coureur que j'ai particulièrement, c'est le Suisse Marc Hirschi, qui a fait une très très belle course, et il n'est pas à la place qu'il mérite. L'Australien O'Connor, il fait deuxième, mais il a été très attentif, il a pas fait la course, c'est ce que Marc Hirschi a vraiment été formidable dans cette course, et il est pas mal récompensé.
Voilà, il fait partie du paquet des quatre coureurs à 58 secondes avec Van Der Poel, Skujins et Evenepoel.
C'est ça.
On a aussi, alors malheureusement, on attendait un petit peu Julien Alaphilippe, comme un peu tous les ans au championnat du monde. Malheureusement, il a chuté dès le début de la course, il a dû abandonner avec une blessure à l'épaule. Voilà, c'est la vraie, je dirais, déception, ouais, côté français, puisque on sait que Julien Alaphilippe
est indisponible. Il va sûrement être indisponible un certain temps, parce que clavicule, je crois.
Ça peut prendre un peu de temps, voilà. Donc vous l'avez dit, Ben O'Connor a terminé deuxième de ce championnat du monde à 34 secondes, et puis après, donc on l'a dit, on le redit, Evenepoel, Van Der Poel, Skujins et Hirschi sont à 58 secondes. On peut faire aussi un petit retour sur ce qui s'est passé il y a une semaine avec le contre-la-montre, où une fois de plus, Remco Evenepoel a montré qu'il était vraiment le plus fort de cette discipline. Devant Felipe Ganna, alors il le bat entre guillemets que de 6 secondes,
ouais.
mais il gagne.
Il gagne. Ouais.
Voilà, il est encore devant, comme aux Jeux Olympiques, comme au Tour de France. Il est vraiment le maître de cette discipline aujourd'hui.
Ouais, je pense pas Felipe Ganna, c'était le maître incontesté. Là, il trouve Evenepoel. Alors, ça joue aussi sur sur la, les positions, et vraiment, il a une position très aérodynamique qui l'avantage beaucoup. Et puis, petit, il développe une puissance malgré sa petite taille. Et donc, ouais, moi, je pense qu'il a, il a des grosses qualités dans le contre-la-montre, hein, malgré sa petite taille, comme on dit, parce que ça, c'est pas toujours avantageux, quoi. Hein. À côté de Philippe Ogana, qui est vraiment un athlète, enfin, 90, je crois. Alors, il y a aussi le petit Français Junior qui a gagné en contre-la-montre. Et c'est assez rare, hein, parce que... je crois pas qu'il y ait eu un Français qui a... Ils ont gagné junior en course en ligne, mais je crois pas qu'ils aient eu.
Pas sur le contre-la-montre.
Contre-la-montre, ouais.
Bon, on suivra donc avec intérêt ces performances dans l'avenir. Simplement pour conclure avec ces championnats du monde, on va dire aussi un petit mot. Ils ont malheureusement été endeuillés par le décès d'une coureuse suissesse sur en junior aussi.
Ouais, ça c'est triste, vraiment triste de voir des trucs comme ça. Elle est tombée dans un petit ravin là, puis je sais pas ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est triste de voir des jeunes qui partent disputer des courses sélectionnées par leur pays et puis qui trouvent la mort. Ça doit être terrible pour les familles.
Voilà, donc
pour le vélo, bien sûr.
Pour rappeler voilà, que le cyclisme reste un sport quand même difficile et dangereux. Ouais. On a un peu tendance à...
Surtout qu'il y avait la pluie, là. Beaucoup de pluie dans ces championnats, ouais. Puis peut-être un petit coup de chapeau à l'autre Kopecky, quand même, qui... Oh. Championne du monde pour la deuxième fois. Elle est assez formidable, cette fille. Hein. Elle court très bien, elle s'est assurée, elle calcule bien, tout. C'est vraiment une belle championne. Ouais.
Au-dessus du lot, elle aussi?
Je pense, oui. Enfin, elle a eu du mal, quand même, hein, mais elle a bien couru, elle a bien fait sa course comme il fallait, et su s'imposer à l'arrivée au sprint, comme c'est une pistarde aussi, donc elle a su s'imposer au sprint de belle façon.
Bon, voilà. Donc la suite et la fin de la saison sur cyclisme, quel est le programme?
Ben alors là, je sais pas. Il y a les championnats du monde, mais il y a des sur pistes. Je sais pas exactement ce qu'il y a.
Il reste plus le Grand Tour. Quelques classiques.
Voilà, il reste une ou deux classiques, mais je sais pas exactement. Puis il y a des petits tours de régions qui se passent, de pays. Là, je crois que c'est
Il y a eu le Tour du Luxembourg il n'y a pas très longtemps.
Oui, puis là, il y en a un en ce moment, là, mais je ne sais plus exactement. Ouais.
Bon, on suivra avec attention les performances de nos coureurs français. On va enchaîner, messieurs, avec le rugby. Jérôme Crapati avec vous. Et ce matin, l'UBB a réalisé l'exploit d'aller s'imposer à Ernest Vallon face au Stade Toulousain, 16-12, en clôture de cette quatrième journée. C'était aussi un moyen pour eux de prendre une revanche sur cette fameuse finale du top 14 perdue il y a 3 mois. 59-3, si je dis pas de bêtises. Voilà, les Béglés ont vraiment fait un gros match ce matin.
Oui, effectivement, les Béglés voulaient laver l'affront de cette fameuse finale où ils avaient pris pratiquement 60 points. Et ce matin, ils ont été vraiment de très bons, avec beaucoup d'engagement et beaucoup de sérénité face à des Toulousains qui finalement ont été empruntés. On s'est rendu compte que Toulouse a pris le match à son compte avec un très bel essai de Kinghorn. Et ensuite, petit à petit, la défense béglaise s'est mise en place. Toulouse a balbutié son rugby et a fait preuve de stérilité. D'habitude, ce qui fait la force des Toulousains, c'est leur jeu de mouvement qui alterne donc la puissance, mais également le jeu aéré. Et là, ce matin, finalement, ils se sont tombés contre une équipe béglaise vraiment très très forte et qui finalement l'emporte à l'arraché. Alors, c'était un match passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un aller-retour entre l'un et l'autre qui passait devant. Et à la fin, c'est malgré un essai de Mauvaka et Toulouse revient à 12-13, la dernière pénalité enfonce le Stade toulousain. Et voilà, et donc on peut se dire que c'était vraiment un top 14 qui est très très relevé, puisque l'UBB, grâce à cette victoire, prend la tête du top 14.
C'est ça, vous l'avez dit, donc ils se sont appuyés ce matin sur une défense très très solide. Il y a quand même eu aussi, on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça des faits de jeu, mais des essais marqués en supériorité numérique, à un moment où il y avait des cartons jaunes des deux côtés.
Oui, et on le disait dans d'autres émissions, c'est le haut niveau, c'est la maîtrise de soi. Et finalement, ces cartons jaunes qui ont été donc de part et d'autre, ben, les équipes adverses en général en profitent. Et là, c'est vrai que cette supériorité numérique a permis donc à Bègles-Bordeaux d'être plus fort. Alors, c'est vrai qu'il va y avoir le championnat n'est pas terminé, on n'est qu'à la quatrième journée, mais c'est vrai que Bègles a montré un jeu intéressant. Et pourtant, il y avait 7 absents au niveau de Bègles. Il y avait Damien Penaud, De Porter, enfin pas mal de joueurs petits qui étaient avec la sélection d'Argentine, Coleman, et donc on se rend compte que malgré donc les titulaires absents, et Bègles a un fond de joueurs qui est intéressant. Et d'ailleurs, un des commentateurs disait que maintenant le championnat, c'est pas 15 joueurs, c'est pas 30 joueurs, c'est 60 joueurs. Donc c'est pratiquement 4 équipes qui peuvent donc succéder sur les 26 journées.
C'est assez impressionnant, c'est cette profondeur de banc, ces effectifs aujourd'hui pour être prêt. On sait qu'on va piocher sur la quatrième ligne dans les juniors.
Oui, mais c'est ça. Et surtout, on donne la chance à des jeunes qui peuvent, justement, sur des matchs à l'extérieur ou même parfois donc sur des matchs à domicile, ben, montrer leur valeur. Ils arrivent des pôles espoirs. La formation toulousaine est une formation qui est vraiment de qualité. Et c'est vrai que on se rend compte que les clubs recrutent, mais également forment en interne. Et ça, c'est intéressant parce que ça monte le niveau. Et il y a une émulation qui est saine, puisque si on prend le cas, par exemple, d'un joueur comme Marchand, qui est le l'honneur international, eh bien Pauto Mouvaka est aussi international, mais ils font une mi-temps chacun et sont à 100% et donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Alors ce matin, c'était donc la fin d'une invincibilité de 33 matchs à domicile pour le Stade Toulousain. C'est quand même c'est quand on a dit que Bègles avait fait un exploit, ça mesure aussi l'exploit réalisé ce matin.
Oui. On n'arrive pas à prendre la forteresse d'Ernest Vallon comme on veut. La preuve, c'est que Toulouse était invaincu depuis de nombreux matchs. Et c'est vrai que Bègles a bien joué le coup. Alors effectivement, Hugo Mola a parlé d'un collectif qui a été assez stérile et n'a pas été pragmatique et opportun parce qu'ils n'ont pas su marquer sur les temps forts. Maintenant, on se rend compte que ces matchs-là, ils se gagnent grâce à une avancée au niveau donc du territoire, du terrain. Et dès l'instant où on est près de l'embut, il faut absolument marquer. Et ce manque de pragmatisme et de réalisme a fait défaut à Toulouse.
Voilà, marquer dans les temps forts, c'est ce qui a manqué ce matin au Stade toulousain. Les autres faits marquants de cette journée, c'est Perpignan qui cartonne Clermont, oui. 33-3. Quand même assez presque inattendu et impressionnant finalement.
Oui, les Catalans qui retrouvaient Aimé Giralt, puisque les matchs avaient été
à
Biarritz et à Béziers. Et donc là, quand on joue à Aimé Giralt, ils mettent 33 points à 3 au Clermontois. Et c'est vrai que 4 essais avec une grosse puissance au niveau du pack. Malheureusement, la blessure de Pozzolo Tuilagi, qui a fracture du tibia péroné et qui va aussi manquer à l'équipe de France.
Alors, qui a été opéré avec succès, dont les nouvelles post-opératoires sont plutôt bonnes. L'opération s'est visiblement très bien déroulée, mais effectivement, ça va être une grosse perte pour le 15 de France. Bayonne, qui s'est imposé face à Montpellier aussi, 28-27, d'un tout petit point.
Oui, un match vraiment passionnant, avec de nombreux essais et surtout beaucoup de jeux. Et c'est ce qu'il faut retenir de cette quatrième journée, c'est qu'il y a des scores qui sont quand même assez importants. Il y a beaucoup d'essais et c'est très très plaisant à voir. Et c'est un jeu de mouvement. Et finalement, ça démontre bien que le rugby, c'est aussi de l'évitement, c'est pas que de la puissance, c'est pas que du défi physique. Et ce qui est intéressant sur l'ensemble des matchs.
On est vraiment, on le sent, sur cette année, une philosophie où les équipes ont envie de faire vivre le ballon, comme on dit dans le monde du rugby.
Oui, et elles alternent entre ce qu'on appelle les groupés pénétrants, le jeu devant, mais aussi donc le jeu aéré, avec des phases de jeu qui sont vraiment spectaculaires. Et c'est très, très, très plaisant à regarder.
La section paloise qui aussi a repris un peu le dessus face au Stade français, alors qu'ils étaient menés à la mi-temps en faisant une première mi-temps un non-match.
Oui. Malgré le recrutement du Stade français, qui est quand même un très très beau recrutement, avec des joueurs vraiment de grande qualité, ils n'ont pas su, donc ils sont pratiquement, je crois, avant-dernier au classement.
C'est ça, 13e.
Et donc finalement, la section paloise, elle n'est pas facile à prendre à la maison, quoi.
Et puis, on va dire, le dernier fait marquant de cette quatrième journée, c'est Toulon qui met 54 points à Vannes, à domicile.
Oui. Alors Van qui gagne à la 47e minute, il mène 19-14. Et ensuite, ils perdent de pied, ils prennent donc 54 points. Mais attention, cette fabuleuse équipe de Vannes qui est la nouvelle promue, avec un public magnifique dans son stade à la Rabine, eh bien, sera dur à battre, puisque la semaine dernière, ils ont battu Lyon. Et là, je trouve qu'ils ont tenu la dragée haute à Toulon. Mais bon, Toulon à Mayol, c'est costaud. Et la preuve, c'est que là aussi, ils sont en tête.
Donc au classement, on l'a dit, l'UBB est en tête devant Toulouse et Toulon. Ces trois équipes ont 14 points, suivent derrière La Rochelle à 13 points et Lyon à 12 points. Et en fin de classement, les deux derniers sont donc le Stade Français à 5 points et Vannes également à 5 points, mais avec un goal average moins bon. La prochaine journée, on verra quand même le déplacement, l'UBB qui recevra Bayonne,
oui,
et Toulouse qui se déplacera à Castres.
Oui, ou pas facile à la
Castres. Donc voilà, un déplacement difficile après cette défaite à domicile.
Oui, mais je pense qu'il va y avoir un recadrage cette semaine à Toulouse. Je pense que Hugo Mola va dire ce qu'il pense à ses joueurs et je pense qu'il va y avoir une réaction à Castres.
Alors on peut aussi se poser la question, est-ce que finalement, il manque pas un peu Antoine Dupont dans cette équipe de Toulouse ?
C'est vrai qu'il magnifie le jeu, il est extraordinaire, mais il y a quand même une sacrée ossature et Graou fait quand même un très très bon match. Alors c'est vrai que Antoine Dupont donne le petit plus, mais voilà, on va se dire que là il est en train de se reposer et puis il va revenir encore plus fort.
On va passer au rugby championship dont c'était la fin ce week-end. Et l'Afrique du Sud qui n'a laissé aucun espoir aux Argentins. C'était la finale de ce rugby championship. L'Argentine avait obtenu le droit de jouer cette finale la semaine dernière. Bon, 48 à 7, 7 essais à 1. Là, je crois que les Springboks ont voulu remettre un petit peu les choses au clair.
Ah oui, ils ont remis les choses en ordre avec donc tous ces essais et surtout la 128e sélection du deuxième ligne Ned Sebest avec un match vraiment de très haute qualité avec une maîtrise offensive et des grosses séquences imposées par les Sud-Africains. Je rappelle que la semaine dernière, les Argentins avaient battu les Sud-Africains d'un point.
28, absolument.
Mais là, vraiment, ils les ont pris à la gorge et les Argentins qui ont certes progressé durant cette compétition n'ont pas pu résister et finissent quand même loin derrière.
Alors, vous l'avez dit, c'était la 128e sélection de Estebest, le plus capé des Springboks désormais.
Oui, il dépasse Victor Mayfield.
Voilà, donc son idole. Donc, c'est vraiment tout un symbole pour lui. C'est la première victoire de l'Afrique du Sud dans cette compétition depuis 2019, et c'est surtout un an après la Coupe du Monde. Donc, c'est vraiment aujourd'hui l'équipe qui domine le rugby mondial.
Mais je le disais dans d'autres émissions, c'est une équipe qui a une puissance collective et qui a une maîtrise du contenu et de son jeu. Et on se rend compte qu'à chaque poste, ils sont efficaces et ils essaient toujours de faire ce qu'on appelle quelque chose qui n'est pas facile en rugby, c'est la passe après contact. Ils ont une capacité à maîtriser le ballon, à avoir le ballon et surtout à pouvoir donc pénétrer la défense et surtout après donc faire la passe et donc créer des intervalles et marquer des essais. Et c'est un jeu très très plaisant. À l'époque, cette équipe-là, on lui reprochait d'être un petit peu surdimensionnée au niveau physique, à jouer qu'avec les avants. Et bien maintenant, avec des joueurs comme Colbe ou Arenze ou des même faciles arrière, enfin des joueurs assez formidables, et bien ils arrivent à proposer un jeu qui est vraiment de grande qualité. Ils sont double champions du monde et ils vont ils font leur cinquième titre. Et je trouve qu'ils ont mis vraiment derrière la Nouvelle-Zélande et l'Australie. L'Argentine.
Alors la Nouvelle-Zélande justement qui termine deuxième de ce rugby championship grâce à sa victoire sur l'Australie 33-13 samedi soir pour nous avec 5 essais à 1. On commence à retrouver un petit peu le jeu des Blacks mais on sent que c'est toujours un peu fébrile en défense.
Oui, sur ce rugby championship, ils ont donc ils font 3 victoires, mais on voit bien qu'ils sont pas encore revenus à leur meilleur niveau. Là, ça reste l'équipe de référence, et c'est vrai qu'ils ont eu du mal contre les Sud-Africains, mais là quand même ont dominé les Australiens. Mais on sait que les Blacks, ça reste les Blacks, ils vont revenir. Et je suis certain qu'il va y avoir d'autres matchs en 2024, en 2025 entre ces deux équipes-là, et je pense que les Blacks vont vouloir à nouveau battre les Sud-Africains.
Voilà, on va attendre avec impatience la tournée de fin d'année, mais qui se déroulera alors peut-être avec Sam Kane, Boden Barrett et TJ Perenara, mais néanmoins, c'était pour ces trois-là le dernier match sur leur terre, la dernière sélection. Oui. Quand même un élément important, ça aussi, ça veut dire que ce groupe, il est aussi en reconstruction.
Oui, alors les All Blacks, ils fonctionnent par génération et on se rend bien compte que le rugby en Nouvelle-Zélande, ça commence dès le plus jeune âge et qu'à chaque fois, ils arrivent à sortir des nouveaux joueurs. Donc là, il y a des anciens qui s'en vont, qui laissent la place, mais il y a des super joueurs qui vont, à mon avis, se révéler avec des potentiels formidables. Et c'est vrai qu'ils vont rajeunir l'équipe et donner la chance à ce qu'on appelle les Baby Blacks qui vont devenir ensuite beaucoup plus grands.
Voilà, on commence à sentir malgré tout la patte de Scott Robertson.
Exactement.
Bon, on va enchaîner avec la MotoGP avec vous, Clément Muller. Mandalika a accueilli le 15e Grand Prix de la saison de MotoGP. Et c'est Jorge Martin qui s'est imposé hier soir pour nous devant Pedro Acosta et Francesco Bagnaia.
Effectivement, ça a été un week-end qui a été assez dominé par Jorge Martin. Hein. On l'a vu dès les séances d'essais libres et puis après les qualifications où il prend 5 dixièmes sur le deuxième. C'est quasiment le même écart qu'il y a entre le deuxième et le dixième. Donc on avait un peu le ton qui était donné pour le week-end. Après, malheureusement, sur la sprint race, je pense petite erreur technique de sa part au niveau du pneumatique avant qui, comme le circuit était très chaud, qu'il n'a pas fait chauffer assez, il a attaqué assez fort dès le premier tour, quasiment le premier virage. Hein. Donc il se met par terre, il remonte sur la moto, mais il ne parvient pas à rentrer dans les points. Donc petite erreur de sa part sur la sprint. Et après, il termine en beauté en gagnant la course du dimanche, assez haut la main, on va dire. Voilà.
C'était sa troisième victoire de la saison et point important sur ce Grand Prix, 12 pilotes seulement à l'arrivée.
12 pilotes à l'arrivée, ouais, c'était assez... il y a déjà eu un petit accrochage sur le premier tour qui a entraîné 4 pilotes au sol, avec notamment... Alex Marquez, Jack Miller, Espargaro et Marini. Donc c'est aussi des pilotes qui sont quand même qui jouent le top 10 en général. Donc ça enlève aussi des potentiels concurrents à nos Français par exemple. Et après il y en a eu encore 5 de par terre tout au long de la course. Mais c'était pas facile. C'est un circuit qui est pas facile à cause de la chaleur et notamment des températures du sol à quasiment 60 degrés.
C'est ça, il faisait 40 degrés dans l'air déjà.
Ouais, et l'asphalte à 60 degrés, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas rouler avec le pneu le plus performant. Ils sont obligés de prendre un pneu, en l'occurrence un pneu médium, qui met un peu plus de temps à chauffer pour pouvoir boucler quand même les 27 tours. Mais du coup, on ne peut pas attaquer de la même façon et il faut rentrer vraiment dans une gestion pneumatique... pour rester sur ses roues.
Alors, l'homme fort de ces dernières semaines, Marc Marquez, a malheureusement pas pu terminer du non plus grand prix. Sa moto a pris feu, ce qui est un fait assez rare finalement en termes d'image. On voit rarement ce genre de choses.
Alors, ça arrive souvent, mais on le voit pas souvent. C'est-à-dire qu'on évite de montrer les scénarios un peu catastrophes, mais c'est vrai que les motos GP sont faites avec des matériaux un peu comme la Formule 1, avec plein de matières hyper inflammables et puis une essence de très 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 haute qualité. Donc il suffit d'une étincelle et d'une micro-fuite et ça y est, ça s'embrase. Donc c'est vrai que c'était pas une image très jolie à voir. Après, pour revenir sur les performances de Marquez, oui, depuis la Malaisie, enfin juste après Aragon, on s'est dit ça y est, il arrive enfin. Et l'homme fort. Mais là on a vu qu'il y a eu une petite contre-performance ce week-end, mais il reste encore dans le jeu pour le podium et pourquoi pas le titre encore d'ici les 5 prochains Grands Prix.
Alors la bonne nouvelle de ce week-end, c'est que justement nos deux Français ont quand même terminé dans le top 10 avec Quartararo à la 7e place et Zarco à la 9e place.
C'est ça, alors ils rendent des points, c'est bien. Ce qu'il faut retenir plus que leur classement, je pense, sur la fin, c'est de voir des motos compétitives dans les séances d'essais libres. C'est-à-dire que ces motos qui ont du mal, qui sont clairement les plus mauvaises du plateau, ils ont réussi à faire des tours chrono sous une 30, donc 6e et 7e temps. Et ça veut dire qu'on arrive à avoir des motos compétitives au moins sur un tour, donc c'est bon signe. Après, il faut travailler pour que ces motos soient performantes sur plus. Qu'elle soit facile et que les pilotes arrivent à tenir ce rythme en course après. Il y a un progrès, mais c'est pas encore suffisant.
Les niveaux restent élevés malgré tout. On l'a vu samedi avec Bagnaia qui a profité lui de la course sprint pour reprendre les points attribués sur cette course-là et un peu limiter la casse par rapport à Jorge Martin.
Ouais, c'est un peu ça. En fin de compte, c'est un peu le C'est dur hein, de dire ça, mais c'est un peu le jeu de l'intelligence quand on est à 5 Grands Prix de la fin, qu'on a un concurrent qui est sur la même moto, de la même marque, sachant qu'il y en a un qui va en équipe, qui reste en équipe d'usine et que l'autre qui n'a pas été choisi. Donc, c'est prouver à Ducati de la part de Rory Martin qu'ils ont eu tort de ne pas le prendre et Bagnaia prouver à Ducati qu'ils ont eu raison de le garder. Donc, on rentre dans un jeu un peu de. Vous avez bien fait de me faire confiance et du coup, ben, ça crée des démonstrations en course qui sont parfois pas très fructueuses et inversement. Donc c'est, on rentre vraiment dans un petit jeu qui est purement un jeu entre les deux. Hein.
Un jeu d'intox. Il va rester, vous l'avez dit, 5 grands prix, le Japon, l'Australie, la Thaïlande, la Malaisie et le dernier en Espagne à Valence. Et Jorge Martin a 21 points d'avance au championnat du monde sur Francesco Bagnaia.
Ça va être tendu. Sachant qu'on sait que Bagnaia, dans la pression, il n'est pas super fort. Enfin, il a du mal. Pour moi, c'est le meilleur pilote en piste. Hein. C'est le pilote le plus rapide, qui est le plus compétent. Par contre, c'est le pilote qui a peut-être l'un des pilotes qui a le plus de mal avec la pression. Et voilà, va falloir qu'il reste concentré et qu'il ne perde pas de vue que l'objectif, c'est le titre. Et de ne pas faire de coups de folie. Et la preuve, hein, on est Rory Martin qui est hyper régulier et qui se retrouve avec 20 points d'avance par sa régularité.
Sachant qu'il ne faut pas enterrer non plus Enea Bastianini et Marc Marquez qui sont à environ 75 points de Rory Martin, mais qui pourraient profiter d'un éventuel accrochage, par exemple, entre les deux, qui pourrait très bien arriver. On l'a connu en Formule 1, ça existe aussi en MotoGP, et profiter un peu... De récupérer des points à ce moment-là. Vous m'avez dit tout à l'heure, il y a 37 points distribués tous les week-ends.
Il y a 37 points distribués tous les week-ends et il suffit d'une petite blessure. Quand on les voit tomber, faut savoir que c'est des athlètes, c'est pas juste des pilotes, c'est des athlètes. Ils ont une condition physique qui est assez exceptionnelle pour en avoir rencontré quelques-uns en vrai. C'est pas juste. La télé renvoie pas tout. Ils font beaucoup de renforcement musculaire et d'exercices de souplesse qui leur permettent quand même de se relever après des chutes à des fois 250-300 km/h. Par contre, il peut arriver qu'il y ait un petit poignet, une petite entorse. Ça, par contre, sur un GP, ben, globalement, tu ne rentres pas dans les points. Quand on a un niveau comme ça, il y en a un qui a une entorse, l'autre qui ne l'a pas, ben, il ne va pas prendre la seconde autour et il va sortir des points. Donc... Il suffit d'une blessure pour que le championnat soit... Donc c'est aussi une course à l'intelligence. Et là, on est à 5 Grands Prix de la fin. Il faut marquer des points, mais pas à tout prix.
Alors, les premiers éléments de réponse, on les aura dès le week-end prochain au Japon.
Yes, avec grand plaisir.
Voilà. Mais si on va passer au débat de ce soir, comme je le disais au début de cette émission, des voix se sont élevées, alors notamment principalement dans le football, pour dénoncer les cadences infernales du rythme professionnel. Jules Koundé, notamment le défenseur français du Barça, s'est beaucoup offusqué la semaine dernière du fait que les joueurs n'étaient pas entendus. Il y a plusieurs syndicats de footballeurs qui ont déposé une plainte également devant la Commission européenne contre la FIFA. Donc le foot cherche par tous les moyens à accroître ses profits, et parfois et souvent même ces derniers temps, au détriment de la santé des joueurs. Raphaël Varane, qui a pris sa retraite cette semaine à seulement 31 ans, perclus de blessures avec une fin de carrière où il n'a jamais pu s'exprimer pleinement, est peut-être un exemple de cette fuite en avant du football moderne. On rappelle aussi qu'on a eu un euro assez moyen finalement en termes de qualité de jeu en juin dernier. Et puis le week-end dernier, des graves blessures de Rodri de Manchester City et de Ter Stegen du Barça. Ce sont vraiment des très très grosses blessures pour qui la saison est déjà terminée. Et Rodri, quelques jours avant, avait menacé d'une grève des joueurs. Voilà, donc on est vraiment dans un système où la FIFA, alors je parle que de football, mais c'est quelque chose que Jérôme Crapati, on pourrait porter au rugby également. Mm-hmm. On le sait, on en parle depuis plusieurs saisons. Donc qu'est-ce que ça vous inspire, cette revendication des joueurs de foot qui risquent de faire tache d'huile d'ailleurs dans d'autres sports, j'imagine. Et comment on pourrait trouver un compromis face à des instances dirigeantes qui veulent de plus en plus de matchs parce que derrière, il y a de plus en plus d'argent en jeu.
Effectivement, la problématique du sport-spectacle, c'est finalement se dire qu'on va Donc, prendre donc des athlètes et leur faire faire le maximum d'efforts et de performances en un temps donné pour justement donc, satisfaire du public, satisfaire les médias et satisfaire des intérêts parfois qui dépassent le sport. Et l'exemple donc, du football, effectivement, qui est un petit peu récent, se traduit par une menace de grève, par des choses comme ça qui sont un petit peu donc, provocatrices. Mais ça veut peut-être dire que le système, il est mis en place et finalement, il est largement perfectible. À savoir que finalement, on peut peut-être travailler sur un étalement de la compétition sur l'année et travailler peut-être avec des conventions entre les différents acteurs. Je prends l'exemple du rugby. Le rugby, il y a donc le championnat, donc le top 14, il y a les Coupes d'Europe et il y a également donc les internationaux français qui font le tournoi destination. Eh bien, ils ont mis en place des systèmes de conventions où, quelque part, ils essaient de libérer les joueurs, ce afin qu'ils ne fassent pas toutes les compétitions, donc il y a des phases de repos pour pouvoir justement être performant avec l'équipe de France. Donc c'est un travail qui a été fait entre donc, l'équipe de France et les différents clubs, la Ligue de rugby et la Fédération française de rugby. Et bien ça c'est un exemple donc, d'amélioration, alors que les années précédentes on se rendait compte qu'il y a certains joueurs qui avaient sur l'année plus de 45 matchs, donc c'est pratiquement un match par semaine, et quand on connaît que le rugby est un sport traumatique et qui demande beaucoup d'efforts et de défis physiques, eh bien, il y avait beaucoup de casse. Et là, on se rend compte que oui, il y a encore des efforts à faire, mais ils ont trouvé une solution. Peut-être qu'il faut que le football réfléchisse à trouver un équilibre, justement, par rapport au nombre de matchs qui sont à jouer dans un temps donné.
Voilà, sachant que les joueurs, les top joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens sont environ à 80 matchs par an, et que la FIFA a mis en place une nouvelle Coupe du Monde des clubs qui avant était limité à 4 ou 5 matchs, grosso modo, l'équipe européenne et l'équipe brésilienne, sud-américaine, qui était souvent en finale, jouaient éventuellement un quart de finale, une demi-finale et une finale. Donc ça jouait sur 3 matchs. Aujourd'hui, ça va jouer sur une dizaine de matchs. Donc on rajoute encore des matchs, en plus, en général, à une période qui est au mois de décembre où on a les joueurs qui ont vraiment envie d'avoir une coupure. Donc voilà, c'est quand même, ça pose question. Gérard Sarlat, on retrouve un peu ça dans le vélo, finalement. Est-ce que Pogacar n'est pas le meilleur gestionnaire de ce genre de choses? Il a décidé de ne pas aller aux Jeux Olympiques.
Oui, non, mais on voit bien que c'est vrai que les calendriers sont de plus en plus chargés. En vélo, on court tous les week-ends. Dans le temps, ça s'arrêtait après le Tour de France. Là, maintenant, il y a encore des classiques après le Tour de France. Ça se termine vraiment vers novembre. Puis encore, il y a des courses sur piste, des VTT. Donc, c'est très chargé. Après, moi, je dirais que le football, c'est par le vedettariat qu'il y a, ils se plaignent un peu trop aussi des fois, mais c'est vrai que c'est très chargé. Et la meilleure preuve, c'est que par exemple en cyclisme, on saute des courses. Les coureurs ne vont pas sur toutes les épreuves parce que sinon ils ne sortent pas 300 km tous les week-ends. Hein, les gars, plus les entraînements, tout ça, c'est trop dur. Alors par contre, pour le football, il doit peut-être prendre, Jérôme disait tout à l'heure, que c'est Toulon, je crois, qui change de deux internationaux qui jouent chacun demi-temps. Seulement, c'est un cercle vicieux parce que les clubs veulent toujours mettre leurs meilleurs joueurs aussi, hein, on ne met pas les remplaçants et tout ça. Donc c'est un cercle vicieux. La FIFA veut à tout prix gagner de l'argent, c'est sûr. Et puis les équipes, elles veulent gagner. Donc,
alors la FIFA veut surtout gagner encore plus d'argent, alors qu'elle en gagne déjà, à faire pâlir le reste des fédérations internationales. Mais effectivement, ça pose quand même question. Et on voit, on a quand même des joueurs usés. Hein, je l'ai dit, mais je le rappelle, on a eu un euro assez moyen. Finalement,
très moyen,
on a vu une équipe de France, mais pas que, assez moyenne. Et on a vu des joueurs un peu émoussés, aussi bien physiquement que mentalement, c'est-à-dire qu'ils expriment tous à un moment, et je pense qu'Antoine Dupont est aussi un très très bon exemple de ce qui se passe en ce moment, de faire une vraie coupure aussi bien physique que mentale pour pouvoir reprendre le top 14 derrière. Là, ce week-end il était aux États-Unis. Est-ce que finalement c'est pas aussi un moyen à un moment de faire comprendre aux instances dirigeantes que ça reste des êtres humains et pas des robots? Clément Muller.
Oui, je voulais rebondir sur des sports qui sont peut-être un peu moins médiatisés, avec un peu moins de moyens, comme l'ultra-trail, qui est typiquement une course à pied où le seul organisme qui est en jeu, c'est le corps humain, et où les athlètes internationaux sont souvent Déjà, les athlètes pros sont c'est une toute petite oui. famille. Hein,
c'est un microcosme.
C'est un microcosme, mais du coup, il y a moins cette image de médias, de sponsors derrière, et ils se permettent d'avoir un, deux, voire trois objectifs dans l'année, des gros objectifs, et le reste du temps, ils n'hésitent pas à se dire on coupe, là on se repose, on ne peut pas. Et je pense qu'il y a une grosse pression derrière, forcément, quand on compare du foot à de l'ultra-trail, on n'est pas du tout sur la même...
On est sur deux milieux voilà. économiques très différents, c'est voilà. sûr.
Et pour parler de ce que je sais de la moto, forcément, oui, il y a beaucoup trop de courses. Mais il y a des courses parce que chaque course, c'est 300 000 spectateurs. Chaque pays a envie d'avoir son propre GP.
On le voit aussi en Formule 1. C'est-à-dire qu'il y a une époque où on était vraiment sur 16 Grands Prix. La saison faisait 16 Grands Prix. On est à 20, 22 aujourd'hui.
Et ça s'est internationalisé aussi.
Les
gens ils voyagent de plus en plus loin. Avant, c'était qu'en Europe. Maintenant, c'est un peu partout dans le monde.
Sachant qu'il y a le Moyen-Orient aussi, de plus en plus émergent dans un certain nombre de sports. Donc ça pose quand même question. Et voilà, je pense que les joueurs, tirent la sonnette d'alarme aujourd'hui. Il faudrait qu'il soit.
La sprint race du MotoGP est née de ça. Hein. On voulait faire un deuxième spectacle dans le spectacle. C'est-à-dire que le week-end, au lieu d'avoir qu'une course, on a deux courses.
Et puis on vend des places que pour le samedi, par exemple.
Voilà. Et donc, forcément, les athlètes, les pilotes MotoGP, ils courent du jeudi jusqu'au dimanche. Et après, ils prennent l'avion, ils vont dans un autre pays et ils se préparent.
Donc, c'est là où.
Oui, donc pour répondre à la question, je pense que oui, il y a trop de. Ouais. Calendrier est trop chargé pour le corps humain.
Il y a un aspect économique qui prend le dessus sur l'aspect sportif. Bon, on terminera sur cette réflexion. Messieurs, on va passer à vos coups de cœur pour terminer cette émission. Jérôme Crapati, on va commencer par vous.
Oui, une très belle émission cette semaine dans Itinéraire, mardi dernier, avec trois joueuses de rugby, donc Elina, Anaïk et Yolène Yengo, qui ont fait un parcours, donc Yolène, donc une très belle carrière de rugby, et Anaïk et Elina qui sont donc dans les pôles espoirs de Toulouse et La Rochelle. Et l'émission s'appelait « Là où le rugby t'emmènera ». Vraiment, elle est encore, on peut la voir en replay. C'est une magnifique émission qui démontre bien que dans la réussite d'un sportif, il y a le double projet. Et le double projet sportif et scolaire qui est important. Et la réussite vers le haut niveau, c'est aussi préserver tout ça. Et tout à l'heure, on parlait de l'exigence de la FIFA. Et moi, je pense qu'il faut surtout préserver la santé des sportifs.
Leur intégrité physique. Gérard Salin.
Ouais, moi, j'aurais envie de dire Pogacar, mais non, je vais faire un coup de chapeau aux jeunes espoirs du CTE et du Pôle Espoir Cycliste, qui, malgré qu'il n'y ait pas beaucoup de compétition, qui s'entraînent tous les soirs et donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et la preuve, c'est qu'il y a des records qui sont battus malgré le mauvais état de la piste. C'est vrai que le matériel et les entraînements ont changé. Mais on a une piste pourrie et malgré ça, les jeunes réussissent des belles performances et ils méritent un grand coup de chapeau.
On leur tire notre chapeau ce soir. Clément Muller.
Moi, ça sera encore un autre sport. Ça sera le Vendée Globe avec la voile, avec Violette d'Orange, une jeune femme de bientôt 24 ans qui va s'apprêter à prendre le départ du Vendée Globe, donc le tour du monde à la voile, en solitaire, sur des bateaux de 18 mètres. Donc, chapeau. Chapeau pour tout son projet, en fin de compte, est une belle réussite.
Bon, eh bien, on suivra ses performances dans les semaines à venir. Merci à tous les trois d'avoir été présents ce soir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine formidable.
Merci.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine formidable sur Radio Rythme Bleu.